Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Vous avez 24 minutes dans une journée.
Tout savoir en 24 minutes.
Pour s'informer et comprendre en 24 minutes, ici Mario Dumont, en compagnie de Vincent Dessureau, des studios de Cube Radio, la station d'affaires publiques de Québecor. Voici Tout savoir en 24 minutes.
Tout savoir en 24 minutes.
Évidemment, il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui, mais on ne peut pas passer à côté de cette journée de vote. Aujourd'hui, on est le 20 septembre, c'est jour de vote au Canada, les élections, le moment d'aller voter pour tous les citoyens qui ont jusqu'à 9h30 ce soir pour ce qui est dans l'Est, là, pour aller voter. Et pour l'instant, ça semblait bien se passer. Ceux qui s'attendaient à de longues files d'attente, ben ça, c'est vraiment variable, dépendamment de vos expériences.
C'est ce que je vois, on a les deux extrêmes, là. Beaucoup de gens qui disent, écoute, personne, aller-retour. Et beaucoup de gens qui ont vécu des files importantes. Je sais pas si c'est des hasards ou la démographie fait que des gens sont plus libres dans certains quartiers à certaines heures.
Parce que on sait que Élections Canada avait prévenu les gens d'être patients, qu'on avait une pénurie de main-d'œuvre, qu'il y avait la COVID, évidemment, mais qu'on était prêts, mais qu'il allait avoir des délais à certains endroits. Et je vous le disais, c'est très variable. L'attente, en moyenne, aux dernières élections, c'était 7 minutes. On verra la moyenne pour cette année. Mais par endroit, moi qui est allé voter aujourd'hui, j'étais le seul électeur ou presque, là, donc aucun délai. Mais entre autres, un qui a attendu aujourd'hui, c'est Justin Trudeau. Ceux qu'on surveille toujours la journée des élections, les chefs qui vont aller voter, chacun de leur côté. Et Justin Trudeau, c'est un citoyen. Il a dû faire la file comme tout le monde.
Il y a beaucoup de monde.
Ça a pris quasiment une heure.
Oui, parce qu'on devait le présenter, nous, en direct. Là, moi, j'étais préparé, on m'avait dit dans l'oreille, M. Trudeau doit arriver pour voter à 11h. Puis on l'a, et c'est ça, il était une heure en retard, dès qu'il est arrivé, il a voté vers midi.
Lui qui est dans la circonscription
de Papineau. J'étais plus en onde.
Et il a dit d'ailleurs que c'est une belle journée pour voter. Il a patienté. Je sais pas si ça a débalancé un peu l'horaire du jour. On sait que souvent, lors de la dernière journée, on essaie de faire le tour.
Mais en fait, je voyais aujourd'hui surtout Yves-François Blanchet là, qui fait 7-8 comtés parce que Erin O'Toole fait rien. La plupart des chefs, souvent, le jour du vote, plus arrêté.
Mais c'est le cas de le dire. C'est Yves-François Blanchet, lui, c'est l'inverse. 7 circonscriptions. Il va entre autres à Drummond, Saint-Hyacinthe, Châteauguay, Hochelaga, Rosemont. La petite patrie va finir à Laurier-Sainte-Marie.
Je sais pas quoi penser de ça.
Tu préfères quoi qu'il se repose? Parce que l'objectif, il a quand même envoyé quelques flèches à Justin Trudeau, ce qui est peut-être moins dans la tradition. Normalement, on veut faire sortir le vote.
Mais c'est comme s'il y a un point, à part que d'encourager les électeurs à aller voter, il y a un point où tu as eu 36 jours pour faire valoir tes arguments, attaquer les autres, contester les idées des autres. C'est comme si c'est, va dire ça dans mes mots, c'est un peu comme si c'est le jour des électeurs, tu comprends, le jour du vote, c'est plus le jour des électeurs, là. C'est plus donc les chefs de parti, moi je faisais.
Ouais, c'est en même temps, vous savez que les chefs ont une longue soirée, donc ils peuvent se reposer à la limite dans leur batterie pour faire un discours intéressant le soir.
S'ils en font un ce soir.
S'ils en font un d'ailleurs, c'est ça là. Qu'est-ce que tu penses un peu du scénario toi qui sera là dans la soirée électorale?
Mais je te dirais que il y a pour la première fois un scénario à l'américaine qu'on n'a jamais connu au Canada, c'est-à-dire de se coucher et de pas connaître le gagnant. Ce scénario-là, c'est si on a suffisamment de circonscriptions serrées. Je vais définir ce que j'appelle serré. Là, il y a du vote par la poste, puis ça, il y a aucune enveloppe qui est ouverte aujourd'hui.
Un million de votes quand même qui sera dépouillé jusqu'à mardi.
Demain ou mercredi aussi, on a besoin de temps, mais pas avant demain. Je te donne l'exemple d'une circonscription. Là, le gagnant mène à soir le décompte des votes d'aujourd'hui, là, 300 votes. Mais il y a 2000 votes par la poste entrés. Est-ce que toi, tu te sens capable de déclarer un gagnant?
Non.
Parce que là, c'est trop risqué. Ouais. Tu dis, écoute, le vote par la poste... Mettons que c'est le libéral qui le mène, tu penses, sur le conservateur, mais que le vote par la poste, c'est plein de conservateurs. Ça peut revirer le résultat. Ou l'inverse. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a dans le vote par la poste. Donc, tu vas être obligé de te garder une prudence. Là, je viens de te parler d'un comté. Mais si t'as 20 comtés comme ça à travers le Canada, Puis que, ben évidemment, si t'as un parti qui est très en avance sur l'autre, tu vas pouvoir déclarer un gagnant pareil, un premier ministre quand même, peut-être. Mais si les partis sont au coude à coude ou à très peu de choses au nombre de comtés, puis qu'il reste beaucoup de circonscriptions où on peut pas trancher de façon finale parce qu'il y a du vote par la poste, il y a un scénario où, ben, faut attendre. Faut attendre d'ouvrir les enveloppes du vote par la poste, puis ce soir...
On reporte ça au lendemain.
On reporte ça au lendemain. Quand je dis « on reporte ça au lendemain », je sais pas, il y a pas un média qui va pouvoir déclarer un gagnant. Tu sais, d'habitude, là, il y en a un qui est 3 minutes avant l'autre. Puis, tu sais, à un moment, tout le monde, dans l'espace de 10-12 minutes, tout le monde se décide, oui. Là, mais il y a des plus vite, des moins vite, mais c'est pas important. Le point, c'est que là, ce soir, tu pourras pas avoir des médias qui font différent, à mon avis. Parce que les chefs feront pas de discours. Si tout le monde s'entend, là, les médias disent, nous, on se sent pas capable de déclarer un vainqueur, les partis vont dire, nous, on, exemple, le perdant va dire, celui qui a l'air d'être le perdant ce soir dit, moi, je concède pas. Je vais attendre le vote par la poste. Je pense que dans le vote par la poste, il y a des chances qu'on remonte la pente. Je suis en retard de 5. Je suis en retard, mettons, de 5 côtés, mais je pense que dans le vote par la poste, je vais en virer 5 de bord.
Ouais, parce que là, on sait pas non plus, il sera de quelle tendance ce vote par la poste-là. On a
non,
pas.
Il n'y a aucun historique.
C'est ça. Normalement, on sait dans les certains types ben de oui, votes c'est... par anticipation, OK, c'est plus libéral. Dans certains coins, ça va être plus d'un côté que de l'autre. Là, le vote
aucun
par
historique,
la poste,
on n'a jamais eu. On avait des tout petits nombres avant, là, mais on n'a jamais eu en masse comme ça. C'est la première fois qu'on fait l'exercice.
Il y a quand même beaucoup d'inconnus, là. Parce qu'on a beaucoup vu, les sondages n'ont pas beaucoup bougé, mais c'est un peu un indice que, OK, on est en pandémie, le taux de participation, il va avoir de quoi, on sait pas trop.
Il n'y a aucun parti qui a un vrai momentum, qu'on sent qu'il s'en va gagner, là, tu sais, avec le haut du pavé.
Est-ce qu'il peut arriver un scénario vraiment, là, qu'on n'attendait pas?
Oui. En fait, les scénarios qu'on n'attend pas, ben, en fait, il peut y avoir le scénario extrême là, de quasi-égalité, ou, tu sais, donc un gouvernement minoritaire, mais faible. Mais l'autre scénario qu'on n'attend pas, c'est un gagnant clair. Et parce que là, on a l'impression que ça va être serré. Donc, que ce soit pas si serré que ça. Et ça, ça peut dépendre notamment du taux de participation. Quel parti a ses électeurs plus motivés? Et ça, c'est le bout que les sondeurs peuvent pas se rendre. Les sondeurs posent la question aux gens, avez-vous l'intention d'aller voter? C'est sûr que si la personne dit non, j'ai aucunement l'intention d'aller voter.
Même c'est un bon indice.
Même si elle a dit libéral ou conservateur, on va le déblayer du sondage. On va dire, ouais, mais la personne, elle a une préférence politique, mais elle dit non, j'irai pas voter. Là. C'est bon. Mais il y a bien des gens qui disent, oui, je vais aller voter. Donc, l'intention est d'aller voter. Mais ça, c'est... Mais je te dirais, à peu près dans une élection, 80% des gens disent, oui, j'ai l'intention d'aller voter. Puis les taux de participation réels sont plus autour de 70. Fait comment tu les trouves, l'autre 10? Là? Le 10% qui ils ont l'intention... Tu sais, mettons, samedi passé, il y avait l'intention d'aller voter, mais finalement, arrivé au jour du vote, là, il est arrivé de la visite, puis là, une affaire, puis un autre, puis le gâteau aux carottes a brûlé, puis là, un autre,
ouais.
Puis là, le petit pas, toutes sortes d'affaires arrivent, puis j'ai mal à un genou, puis la diarrhée...
Ça a l'air que ça va être long, avoir des fils.
C'est ça, puis j'ai mal à un genou, puis j'ai la diarrhée, puis j'y vais pas. Décidé à la dernière minute. Parce ouais. que, en même temps, c'est des gens souvent qui trouvent pas ça si important le vote. Donc, oui, il y avait l'intention. Tu sais, si tu leur demandes, oh, oui, je vais y aller, là, mais tu sais, c'est ça, là, c'est comme, tu demandes à quelqu'un une semaine d'avance, hey, lundi de la semaine prochaine, tu penses-tu aller t'entraîner au gym? Ah, oh, ouais.
Et là. Ouais, si tu te mets à côté de la porte, ça se peut qu'il passe pas.
C'est ça, ouais. T'es sûr qu'il va y aller au gym, là?
Bon. Donc,
T'arrives le jour, oh, là, pff, une journée que j'ai mal dans le dos un peu, j'ai mal digéré mon souper de la veille, c'est pas une bonne, faut pas m'entraîner, tu sais.
Est-ce que la petite montée du bloc va se concrétiser? Il y a plein de, encore là, de points d'interrogation.
Fait que c'est ça. Puis l'histoire a voulu que parfois, un parti, pour X, Y, Z raison, quand le chef a pas fait une bonne campagne, quand les voteurs sont pas motivés, tout à coup, c'est toute la même parti qui a son vote qui sort pas. Puis là, ben, l'autre parti, en pourcentage, l'autre parti a l'air bien fort soudain, là, mais il est bien fort parce que son adversaire, tu comprends, il sont restés chez eux.
Je veux dire quand même que parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent il faut son crayon, on va vous donner un crayon. Hein.
Si vous en avez
votre
pas,
crayon, il y a des crayons. Pour ça, c'est pratico-pratique, mais certains qui.
Tu sais, c'est pas écologique, là, un petit crayon, puis on gaspille, on s'en sert juste une fois. Là.
Je le sais, mais là,
à cause de la COVID.
Ce qu'il faut, Mario, c'est, oui, faut c'est ce ça faut. La démocratie. Parlons de ce contrat très important d'Hydro-Québec, contrat même historique avec New York qui a été dévoilé aujourd'hui. Enfin, Hydro-Québec, son partenaire américain Transmission Developers, qui ont annoncé avoir été sélectionnés pour fournir de l'électricité propre à l'État de New York à partir de 2025. Un contrat, un long contrat de 25 ans pour 10,4 TWh, donc qui va alimenter plus d'1 million de foyers américains. Sophie Brochu, la présidente d'Hydro-Québec, qui disait c'est comme si on retirait de la route route à New York, 44 % des véhicules. C'est ce que ça représente en termes de décarbonisation, si on peut dire. Je vais faire d'ailleurs entendre la présidente d'Hydro-Québec qui dit que cet effet-là, là, c'est non négligeable. On l'écoute.
C'est une belle affaire. Écoutez, c'est pas mal un des plus grands projets de décarbonation en Amérique aujourd'hui. Ce qu'on fait, là, on va approvisionner 20 % de l'électricité de la ville de New York et c'est en réduction de gaz à effet de serre l'équivalent de retirer 44 % des voitures de la ville. Alors, quiconque est allé à New York avant la pandémie se souvient du trafic qu'il y a là. Donc, c'est très conséquent.
Et là, ben faut que le projet se concrétise. On sait que le projet au Massachusetts a été, c'est compliqué, beaucoup d'embûches. Un projet qui,
par contre, l'avantage de celui-ci, ce sont les lignes enfouies.
Enfouies au complet dans la partie américaine, ce qui n'est pas le cas dans ce contrat immense également là, d'exportation d'électricité au Massachusetts, 9,45 TWh pendant 20 ans. Contrat qui, lui, est chiffré là, à peu près, on l'évalue à peu près 10 milliards de dollars. Donc, ça vous donne, américain, ça vous donne un peu une idée de l'ampleur.
Mais l'autre, celui de New York, est plus gros.
Plus gros.
Non.
Et celui-là, c'est 545 km de lignes enfoui entre la frontière canado-américaine et la ville de New York. Et là, c'est ça. Ça facilite l'acceptabilité sociale. Mais il y a des embûches. On veut quand même vendre le fait qu'il y aura des emplois créés aux États-Unis pour bâtir tout ça. 1400 emplois. On va également créer des fonds de millions de dollars américains pour former des gens dans les communautés pour pouvoir travailler sur le projet. Amélioration de l'état de santé du lac Champlain, du fleuve Hudson. Alors, on veut vraiment là être le plus vert possible pour contrer, entre autres, la compétition de l'industrie des hydrocarbures, là, particulièrement du charbon, qui fournit cette électricité-là en temps normal et qui se bat contre ce genre de projet-là depuis longtemps. D'ailleurs, la partie québécoise, où il y aurait pu avoir des problèmes, entre autres avec la communauté Mohawk de Kanawake, on s'est entendu pour être copropriétaire de la ligne qui va se rendre jusqu'aux lignes américaines et la communauté de Kanawake qui va bénéficier de retombées économiques pendant 40 ans sur ce dossier-là. Alors, projet ficelé, accepté, on va de l'avant et c'est une bonne nouvelle pour l'économie québécoise.
C'est merveilleux, là. On imprime l'argent ni plus ni moins, on produit quand même notre électricité à un coût très avantageux avec les barrages, on la vend et c'est un gain environnemental. Je vais te dire, par exemple, à mon avis, là, je vais te prédire une controverse à venir.
Oh!
C'est les écologistes au Québec ne voudront pas inclure ça dans le bilan environnemental. Le gouvernement va vouloir dire, ben oui, mais nous, là, le Québec, dans notre contribution, notre réduction de gaz à effet de serre, notre bilan environnemental, là, ce qu'on fait comme décarbonation de la ville de New York, là, c'est une contribution qu'il faut compter, là.
Les environnements, parce que c'est pas chez nous.
C'est pas chez nous. On va dire, c'est pas chez nous.
Mais c'est que la planète, c'est global. Là.
Ah! Ils vont vouloir quand même que tu te promènes en bicycle.
Là. Est-ce qu'on pousse d'autres projets hydroélectriques là? Aujourd'hui, Sophie Brochu disait non. Avec ce qu'on a présentement, c'est suffisant pour pouvoir se servir nous-mêmes pour les décennies à venir et pour pouvoir servir ces contrats-là aux États-Unis. Mais est-ce qu'il y a des nouveaux projets importants qui vont voir le jour? Ce sera à suivre.
Tout savoir en 24 minutes.
Bilan de la COVID aujourd'hui, 679 nouveaux cas. Par rapport à la semaine dernière, on était à 635. Donc, petite hausse, mais dans les derniers jours, on a pas mal aplati la courbe.
Et depuis deux semaines, ça monte plus beaucoup.
Ça monte plus beaucoup. On avait vraiment frôlé le 1000 le samedi, pas le dernier, l'autre. Mais depuis ce temps-là, on est plus dans les 800. Donc, c'est une tendance qu'on va surveiller. On espère que ça va se poursuivre en ce sens. Donc, là, légère hausse, mais on verra dans les prochains jours. Un décès de plus, 3 personnes de plus hospitalisées. 5 personnes de plus aux soins intensifs, mais ça avait baissé un peu dans les derniers jours aux soins intensifs, donc on est toujours en bas de 100. En Ontario, c'est 610 nouveaux cas aujourd'hui et 2 décès, donc c'est la situation présentement au Canada et au Québec. Parlons vaccin, parce qu'aujourd'hui, nouvelle importante concernant le vaccin Pfizer-BioNTech du laboratoire américano-allemand sur la vaccination des plus jeunes. Présentement, on peut vacciner à partir de 12 ans, on le sait, ça inquiétait par rapport à la rentrée, qu'on se retrouve avec une population là, jeune et non vaccinée qui peut se transmettre.
Ça inquiétait et c'est pas mal arrivé.
Oui,
s'est produit pas mal.
Il y a des cas qui se promènent, donc on a très hâte dans la santé publique de pouvoir vacciner les plus jeunes. Et là, on fait un pas en avant important, puisque Pfizer dévoilait aujourd'hui des chiffres d'une quand même étude importante. 4500 enfants entre 6 mois et 11 ans dans 4 pays, États-Unis, Finlande, Pologne et Espagne. Et on arrive à la conclusion que le vaccin, pour l'instant, les 5 à 11 ans est efficace, réponse robuste en anticorps neutralisant la maladie, vaccin sûr, bien toléré. Enfin, on dit c'est à peu près le même effet là, à dose diminuée, c'est à peu près un tiers de la dose qu'on donne à un adulte. Mais avec la dose diminuée, ça équivaut à une pleine dose pour des 16 à 25 ans en termes de réponse immunitaire. Très efficace. Donc ça, c'est pour les 5-11 ans, ce qui va amener une demande aux autorités de santé publique de pouvoir l'approuver pour pouvoir de donner les injections aux plus jeunes. Et là, suit rapidement des données pour les 2-5 ans et les 6 mois à 2 ans. Alors l'objectif, ce serait vraiment de vacciner les gens à partir de 6 mois. Aujourd'hui, un des principaux experts de la COVID aux États-Unis, docteur Jacques, qui disait si tout se passe bien pour les États-Unis, ce qu'il souhaite, c'est que son enfant de 9 ans soit vacciné d'ici l'Halloween. Alors, ça arrive quand même bientôt.
Ça me paraît vite. Parce que Pfizer a déposé aujourd'hui, c'est comme un communiqué, un résumé, là, mais n'a pas encore déposé à la FDA ou à Santé Canada toute l'étude avec les chiffres, etc. Et il me paraît qu'à partir du moment où les autorités reçoivent ça, que ce soit la FDA, c'est au moins 3 semaines.
C'est ça.
D'études, révisions, vérifications.
C'est 31 octobre.
Ouais, peut-être.
Un peu de temps.
C'est limite. Ouais.
On verra au Canada. En Israël, entre autres, on donnait déjà des vaccins Pfizer aux 5 à 11 ans qui avaient des problèmes, des complications graves, entre autres possibles liées à la COVID, là. Et pour l'instant, ça se passait très bien. Moderna fait la même chose. On sait que Moderna a de très bons chiffres pour les adultes. On fait le même type d'évaluation en cours. On n'a pas encore les données. On peut penser, par contre, qu'on arriverait à des données assez similaires. Alors, c'est une bonne nouvelle. On va de l'avant. Et d'ici peut-être les prochains mois,
on pourra vacciner nos plus jeunes. Nouvelle en termes de ralentir la propagation de la COVID-19 dans le milieu scolaire.
On a un taux de vaccination très bon, ben, si on peut avoir le même taux de vaccination chez les 12 ans et moins, là, on se retrouve avec une population réellement vaccinée à 80%.
Ça va être difficile. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont être plus réticents avec leurs tout-petits qu'avec eux-mêmes. Là.
Ouais, sauf que les 12-17 sont vraiment vaccinés beaucoup.
Oui.
C'est quand même des jeunes. On verra. Ouais. Se voit plus sceptique.
Mais non, mais c'est parce que j'entends des parents qui ont jamais hésité à se faire vacciner eux-mêmes, qui ont jamais été d'aucune manière anti-vaccin ou hésitant au vaccin ou quoi que ce soit, qui sont partis quand c'était le temps, à la date, sont partis pour aller se faire vacciner, ils ne se sont pas posés de questions. Mais ils vont probablement faire vacciner leurs enfants. Mais ils se posent plus de questions.
Ouais.
Ils se posent plus de questions.
En même temps, pour les plus jeunes, tu as les vaccins les plus frais en mémoire. Là,
parce que souvent,
tu leur en donnes plein de vaccins, contrairement aux adultes. Toujours concernant la COVID, parlons de la frontière. Frontière avec les États-Unis ou les frontières, parce que là, aujourd'hui, la Maison-Blanche faisait un suivi sur ses règles concernant l'entrée aux États-Unis. On sait que la frontière avec le Canada est fermée pour les voyageurs non essentiels vers les États-Unis. Ce n'est pas le cas de l'autre côté. On sait qu'on accueille ces touristes américain, mais ce n'est pas réciproque. Malheureusement, pour le Canada, ça va se poursuivre. On décide de prolonger une nouvelle fois aujourd'hui, jusqu'au 21 octobre, cette fermeture de la frontière aux voyages non essentiels. Par contre, on assouplit, mais ça dépend comment on voit ça, on assouplit l'arrivée de ressortissants étrangers vaccinés. Donc, on va dire, parfait, les pays où c'est interdit là, d'arriver en tant que touriste non essentiel, c'est interdit.
Notamment toute l'Europe. Là.
Toute l'Europe. En fait, ça touchait 33 pays, donc ça touchait beaucoup de monde. Ça causait d'ailleurs des problèmes. On peut penser aux familles qui sont pas réunies. Et là, on dit tout le monde pourra rentrer aux États-Unis. Tout ce qu'il faut, c'est avoir ces deux doses de vaccin, incluant le vaccin AstraZeneca, même si aux États-Unis, il n'est pas approuvé. Par contre, ça faisait aujourd'hui critiquer le représentant démocrate de l'État de New York au Congrès américain, Brian Higgins, qui disait c'est le temps là, d'ouvrir la frontière aux Canadiens. Lui qui, tout près, serait bien content de voir des Canadiens descendre au sud de la frontière, dit que c'est inexplicable qu'aucune annonce sur l'assouplissement des restrictions au point d'entrée terrestre au Canada
ne soit faite aujourd'hui. Mais moi, mon idée est faite là-dessus, là. C'est qu'ils ont décidé, pour pas insulter les Mexicains, parce qu'ils ont suffisamment de problèmes avec les Mexicains à la frontière, là, pour d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec la COVID, le problème d'immigration illégale, etc. Ils ont décidé de pas faire suer les Mexicains avec des standards différents à la frontière nord et à la frontière sud. Je pense que le Canada, on est pris avec ça. Parce que la situation actuelle, elle est absurde. Il y a plein de COVID aux États-Unis. C'est beaucoup plus sous contrôle au Canada. Nous, on laisse rentrer. Nous, on laisserait rentrer un touriste qui arriverait de la Floride ou du Texas ou du Mississippi ou des États où il y a plein de COVID. Alors qu'ici, quand c'est pas parfait, là, on a de la COVID, mais pas. C'est beaucoup plus sous contrôle, puis on peut pas aller aux États-Unis, ça n'a pas d'allure.
Oui. Et le système pour entrer au pays ressemblera beaucoup à celui pour du Canada, là. C'est-à-dire que si tu arrives de l'extérieur, un Européen, par exemple, doit faire un test 72 heures avant son vol, être doublement vacciné. Mais il y aura une possibilité pour les non-vaccinés d'entrer aux États-Unis, incluant quarantaine, donc de lourdes règles qui permettront quand même d'entrer au pays. Toujours relié à la COVID, on annonçait aujourd'hui, c'est Sonia Lebel, la ministre responsable de l'administration gouvernementale, que le retour en présentiel des employés du gouvernement, fait de la fonction publique, était reporté. On se souvient qu'on voulait ramener les gens en présentiel au mois de septembre. Ça a été repoussé à octobre et maintenant c'est repoussé à une date ultérieure. On dit évidemment en raison de la situation épidémiologique, quatrième vague. Alors en tant qu'employeur responsable, on reporte ça. Chez Revenu Québec, entre autres, on avait repoussé ça déjà au début de 2022. Alors, les travailleurs qui sont à distance devront le demeurer encore un certain temps.
C'est ni étonnant ni renversant, là.
Non.
Puis ceux qui sont encore en télétravail, c'est des gens qui travaillent essentiellement des postes informatiques chez eux. Puis
Relancer les centres-villes, ceux qui ont des édifices gouvernementaux, bien hâte de voir les gens en présentiel. Mais
c'est sûr que le petit restaurant qui fait des sandwichs le midi dans un bureau d'un travailleur gouvernemental, lui, il trouve le temps long.
Effectivement. Alors, il faudra attendre malheureusement encore un peu. Un mot sur les urgences. Aujourd'hui, un médecin de l'urgence pédiatrique du CHU Sainte-Justine à Montréal, Dr D'Angelo, est en entrevue avec notre collègue Philippe-Vincent Foisy. Et lui, rappelle que aux parents là, qui ont des enfants, souvent des jeunes enfants qui, en bas de 2 ans, là, ont été un peu dans la COVID tout le temps, ont peut-être pas vu leur médecin de famille dans les derniers mois, et là, se présente aux urgences avec des symptômes de rhume ou de gastro qui ne devraient pas se présenter à l'urgence du CHU Sainte-Justine. On peut voir ce même genre d'événement dans les urgences un peu partout au Québec. Des parents peut-être un peu trop stressés au départ. Et aussi, je vais vous faire entendre Dr D'Angelo qui veut que les médecins de famille accueillent leurs patients. Dans certains cas, les parents se retrouvent sans autre possibilité et se ramassent à l'urgence, qu'on veut éviter. On peut l'écouter.
Il y a encore des situations qu'on voit à l'urgence de parents qui nous consultent et qui nous disent « ben j'ai essayé d'appeler en clinique et ils ne peuvent pas me recevoir ». Je crois que ce serait bien si tous les médecins et les cliniques soient prêts à recevoir ces patients-là.
On n'a pas l'impression de se répéter du tout, là.
Non, c'est ça. Effectivement. On dit des parents qui, eux, voient le moindre symptôme puis amènent leur enfant à l'urgence pour un rhume, là. Ça devrait pas être l'urgence pour les parents. Bon, regardez peut-être pas vos placements. Aujourd'hui, c'est une moins bonne journée, pas mal sur les marchés. Aujourd'hui, le Dow Jones fait la majorité des indices perdaient à peu près un 2%. Ça a repris un petit peu
journée. J'ai vu la courbe tantôt à CNN. Les dernières minutes de la journée, on a regagné quelques grenailles.
Oui, parce qu'on était à près de 1000 points de baisse pour le Dow Jones. On a finalement terminé avec moins 600. Pourquoi? Ben, la peur d'une contagion sur les marchés de ce qui se passe avec l'immobilier chinois Evergrande, qui est une compagnie qui est endetté, là, fait un promoteur immobilier gigantesque chinois, endetté, là, mais pas à peu près 260.
Non, il est endetté comme un pays, là.
Ben, c'est ça, c'est des centaines de milliards, de dollars de dettes. Et on y voit un peu comme un Lehman Brothers, là, chinois, qui avait causé un peu
la crise financière
en 2007. Donc, une réaction en chaîne qui pourrait entraîner les marchés, avec elle, de sorte qu'aujourd'hui, là.
Mais ça fait quelques semaines, la Chine, là, il y a eu les technologiques chinoises, parce que le gouvernement s'en met. La Chine cause des remous sur les marchés depuis quelques semaines maintenant.
Oui, et il faut dire que le marché est déjà un peu chambranlant avec la COVID, toujours bien implanté aux États-Unis. On n'a pas l'impression qu'on s'en sort très rapidement.
Mais c'est aussi que le marché est haut, là. Il a commencé au printemps après la COVID, au printemps 2020, ça a commencé à grimper, puis ça a grimpé jusqu'à ce printemps. T'sais, ça a grimpé. À un moment donné, tout le monde s'est dit, il va peut-être avoir une correction. Il y a un danger de correction.
Et on arrive au débat aux États-Unis, toujours assez émotif sur la dette, là, le plafond de la dette qui arrive. Alors, on devra s'entendre pour rehausser tout ça pour éviter une crise financière. Et un mot en terminant sur cette histoire, Mario, qui a tellement fait jaser, qui a captivé un peu les Américains depuis...
Avec raison, là.
Ouais,
c'est mystérieux.
L'histoire de Gabrielle Petito, de son vrai nom, américaine de 22 ans, influenceuse, qui part avec son copain faire un road trip en van, là, la van life, en partance de New York vers les grands parcs de l'Ouest américain. Et on dit au mois d'août, les policiers doivent intervenir pour une querelle.
En Utah,
sur le bord de la route, carrément. Mais les policiers, une fois que la boucane retombe, la poussière retombe, repartent. Et quelques jours plus tard, plus de nouvelles de cette jeune femme. Et l'homme en question, son copain Brian, rentre chez eux sans elle. Ce qui va déclencher plusieurs jours plus tard une opération de recherche gigantesque. Et lui, quelques jours après avoir été questionné par les policiers, refusant de répondre aux questions, disparaît.
Mais ça, c'est louche. Louche pas. Vous êtes... T'es en van life, là. Tu fais ton voyage à deux dans ta petite van, puis tu reviens sans la conjointe.
Puis tu veux pas parler aux policiers, tu dis parler à mon avocat.
Voyons.
Et les policiers te surveillent pas et te laissent te sauver.
Tout ça, je comprends pas. Parce qu'il me semble que c'est suspect, là. T'sais, si t'es pas capable de répondre précisément, à la limite de dire on s'est chicané, puis dans telle ville, je l'ai laissé, puis elle m'a dit qu'elle allait prendre le train, ou une réponse précise.
Pas de réponse.
Tu réponds pas. Tu réponds pas. Les policiers disent, voyons, t'es parti en voyage avec une fille, tu reviens pas avec elle, où est-ce qu'elle est? Tu réponds pas. Tu refuses de collaborer. C'est pas suspect, rien qu'un peu.
Malheureusement, la police a retrouvé donc le corps de cette jeune femme dans un parc national du Wyoming dans les dernières heures. Mais l'homme, lui, est toujours recherché activement par les policiers dans une histoire qui vraiment fait jaser partout à travers les États-Unis et même dans le monde.
Résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.